Tiens, belle maman, puisque c'est l'heure et qu'on est chez toi, ça t'ennuierait qu'on écoute l'AJT du local? C'est sur l'autre radio.
Ah ben non, au contraire, j'écoute tous les jours.
Vos voisins, est-ce que vous les connaissez bien? Ce qu'ils font dans la vie, ce qui les porte au quotidien, ce qu'ils vivent de bon ou de moins bon? Est-ce que vous les appréciez ou est-ce que vous restez plutôt distant? Nous, nos voisins, on les aime bien et on aime énormément tout ce qu'ils proposent sur Laval et ses alentours. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai voulu inviter Simon Hermine de l'association Poc Poc du 6x4 pour qu'il nous parle du festival Monte dans le bus qui commence le 4 mars et se termine le 10 mars sur Laval Agglomération. Bonjour Simon, merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Dans la suite de l'émission, j'ai envie de partager avec vous une belle rencontre et un beau projet plein de vie. C'est celui de Corinne Bonnet, autrice de l'ouvrage « Corps à ciel ouvert », qui est un recueil qui alterne récits en prose et poésie et qui retrace son parcours de la maladie alors qu'à 53 ans, lui annonce un cancer de l'ovaire. Cette émission se terminera comme chaque mardi, toujours très bien puisqu'elle se termine avec la chronique de Donatien. Mais je le disais, je suis en bonne compagnie, je suis avec Simon Hermine. Tu es responsable communication et partenariat au sein de l'association Poc Poc. C'est l'association qui s'occupe donc du 6x4 à Laval et du festival Monte dans le bus dont on va parler aujourd'hui. Donc Simon, c'est la 11e édition cette année du festival Monte dans le bus qui a lieu du 4 au 10 mars, je le rappelle. C'est pas le seul festival que porte l'association Poc Poc, mais ici, c'est à destination du jeune public. Alors, comment ça a démarré, le festival Monte dans le bus? Et est-ce qu'il y a eu une évolution, des directions qui ont changé depuis la création du festival?
Ouais, complètement. Le festival a eu pas mal de formes en 11 années. Donc, c'est l'initiative du 6x4 qui souhaitait, en plus de ses concerts habituels, proposer des formes pour le jeune public. Pas mal de salles comme nous les étalent un petit peu tout au long de l'année. Nous, on avait la volonté de créer un temps fort autour du jeune public. Dans un premier temps, c'était uniquement au 6x4. Et puis petit à petit, on a voulu collaborer aussi avec d'autres structures du territoire pour en faire un temps fort au niveau de Laval Agglomération. Ça a changé de date également. Au tout début, le festival était sur les périodes scolaires, ce qui faisait qu'on avait beaucoup de groupes qui venaient avec leurs écoles. Désormais, on est pendant les vacances scolaires, ce qui fait qu'on a un public plutôt de centre de loisirs et pas mal d'enfants qui viennent avec leurs parents, leurs grands-parents. Et voilà, on essaie d'en faire un temps important sur le territoire avec les saisons culturelles de Laval Agglomération.
Justement, tu le disais, le festival a lieu dans 5 villes de Laval Aglo. On parle de Laval, de Bonchamp-lès-Laval, de Saint-Berthevin, de Changé, de l'Huisserie. Au programme, on peut compter 10 spectacles avec des propositions très différentes. Concerts, ciné-dessiné, danse, contes, spectacles d'ombre, humour, contes. Ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir diversifier justement les propositions.
Oui, complètement. On essaie toujours de garder un lien fort avec des propositions musicales, même si dans le jeune public, c'est rarement des concerts bruts, sans artifice autour. Souvent dans le jeune public, on essaye de diversifier justement avec des spectacles d'ombre, des mises en scène particulières, de la musique avec de la danse, etc. Et le festival Monte dans le bus justement essaye de montrer un petit peu toutes ces formes. Et puis on essaye aussi de s'adresser à un public avec des âges différents. Donc cette année, dès 3 ans, il y a des spectacles pour les tout-petits. Il y a eu des éditions où on a réussi à trouver des formes qui s'adressaient à des enfants dès 6 mois. Voilà, ça dépend un petit peu des opportunités et de notre programmation.
Et donc, je le disais, il y a 5 villes qui vont accueillir ces différents spectacles. C'est aussi important d'avoir un impact un peu plus large. On ne reste pas que sur Laval. On atteint donc aussi différents publics.
Complètement. Bah oui, c'était un petit peu l'enjeu pour nous. Alors, d'un point de vue de notre côté, ça permet de collaborer avec d'autres structures qui ont d'autres problématiques, d'autres manières de fonctionner. Donc pour nous, d'un point de vue pro, c'est hyper intéressant de pouvoir collaborer et ça nous permet de travailler vraiment avec les acteurs du territoire. Et puis pour le public, je pense que c'est aussi sympa. Ça permet aussi un petit peu de découvrir d'autres salles, d'autres équipements, que les publics circulent un petit peu d'une salle à l'autre. On a un territoire qui est riche, mine de rien, d'un point de vue culturel. Et donc, avec Monde dans le bus, on essaye un petit peu de créer un petit temps fort, justement, avec tous ces acteurs sur le territoire.
Puis, il y a des très belles salles. Je pense notamment aussi au Reflet à Saint-Berthevin. Enfin, toutes les salles qui vont accueillir ces différents spectacles sont des richesses du territoire. Il y a aussi le samedi 9 mars, le village qui s'installe au 40 le temps d'une journée avec des ateliers proposés par différentes structures. Et tout ça est en accès libre.
Oui, complètement. Ouais. Le village, c'est un temps qu'on a créé l'année dernière pour la 10e édition du festival. C'était l'anniversaire. On a voulu marquer encore un petit peu le coup et créer un temps, voilà, une journée un petit peu en fil continu, où on a invité encore une fois plein d'acteurs du territoire à mener des ateliers qui soient toute la journée, qui soient sur inscription. Tout est entièrement gratuit, mais ça nous permet d'utiliser aussi le 40, qui est un superbe équipement pour nous, pour créer ce genre de projet. Et voilà, on invite du coup les familles à venir, que ce soit pour 10 minutes pour faire les curieux ou y passer la journée. Le programme est hyper riche. On peut y faire de la danse, de la chorale, des ateliers stop motion, du pliage en lien avec le visuel du festival. Voilà, on essaye vraiment d'en faire une journée ouverte au maximum et pour tous les publics.
Je vois aussi également d'ombre et de lumière. Laissez parler les petits papiers. Les formes s'assemblent et se transforment au rythme de vos envies. Révélées par la lumière, les silhouettes s'associent, s'animent, comme dans un théâtre d'ombre. En fait, il y a un lien permanent aussi avec les spectacles qui sont proposés.
Oui, complètement. Ouais, on essaye vraiment au maximum de que tout soit un petit peu lié autour des spectacles sur Monde dans le bus. Il y a pas mal d'ateliers également qui sont mis en place en lien dans des bibliothèques ou dans des, voilà, un peu partout sur le territoire. Ça a du sens justement pour nous de pouvoir créer vraiment des temps autour des spectacles et de tout lier un petit peu. C'est vrai que quand on est jeune spectateur, voir un spectacle simplement, c'est déjà chouette. Mais quand on a un petit peu d'explication, un petit peu les coulisses des spectacles, c'est souvent des temps qui marquent un petit peu quand on est enfant. Donc on essaie de rentrer dans cette logique.
C'est important pour l'association Poc Poc justement également de soutenir ces créations de spectacles, ces artistes émergents pour le jeune public. Finalement, on pense très souvent aux artistes émergents, les plus classiques que nous, en tant qu'adultes, on peut aller voir. Mais le jeune public aussi, il faut y penser. L'accès très tôt à la culture, à l'art, c'est quelque chose qui est important pour l'association Poc Poc.
Complètement, ouais. C'est le jeune public, c'est le public de demain. Donc c'est évidemment important. Alors cette année, on n'a pas de création à proprement parler, mais sur l'édition de l'année dernière, pour le coup, on était coproducteur du spectacle Dogo. L'équipe artistique avait pu passer une petite semaine au 6x4 pour justement travailler son spectacle, accueillir des scolaires aussi tout le temps de cette journée-là, et avait pu jouer après dans le cadre du festival. Donc en effet, au-delà de programmer des spectacles pour le jeune public, il y a aussi un enjeu de l'association qui est d'aider à la création, et de, voilà, c'est quelque chose qui est important aussi pour nous, ouais.
Et donc il y a même 3 représentations pour les scolaires qui sont prévues pendant le festival.
Alors pas forcément pendant le festival, mais toute l'année. En effet, on a vraiment le temps fort du festival Monde dans le bus, qui est vraiment sur la deuxième semaine des vacances scolaires. Mais Monde dans le bus, c'est aussi un petit peu toute l'année. On a quand même souhaité garder le lien avec les scolaires, parce que c'est quand même important. Donc en effet, on a 3 représentations qui sont un petit peu étalées toute l'année et qui permettent d'accueillir, voilà, des scolaires, quel que soit leurs âges. Alors je ne sais plus, on a 3 propositions cette année. On essaye un petit peu chaque année de pouvoir cibler différentes classes, différents niveaux, pour que tout le monde puisse y retrouver.
Et j'imagine que les écoles sont assez enthousiasmées à l'idée de recevoir justement ce type, de créer ce type de lien avec les salles du territoire.
Bah ouais, complètement. Et puis comme je le disais, le festival est né un petit peu de cette relation aux scolaires, donc forcément... Il y a un engouement. Toutes les séances scolaires sont complètes pour le coup. Ça se cale pas mal en début d'année avec les calendriers des saisons scolaires. Nous, l'enjeu justement, c'est aussi que les enfants qui puissent bénéficier de spectacles via leur école puissent motiver leurs parents, leurs grands-parents pendant les vacances scolaires pour revenir sur le festival.
Est-ce que le jeune public, c'est un public qui se rend facilement dans les salles de spectacle? Et pourquoi c'est important de comprendre que tout jeune, cette sensibilité-là, c'est important d'en prendre soin?
C'est une très bonne question. Le jeune public, évidemment, se déplace toujours avec leurs parents, leurs grands-parents. Donc je pense que ça dépend beaucoup des pratiques culturelles aussi de leurs parents, de leurs grands-parents. Sur le festival, en tout cas, nous, on essaye justement d'axer notre communication plutôt des parents et des grands-parents, mais justement en passant par les scolaires, les centres de loisirs. Pour nous, c'est des super biais pour que les enfants, quelles que soient les pratiques culturelles, de leurs parents, voilà, puissent déjà être un petit peu sensibilisés au spectacle vivant. Donc on espère en tout cas humblement que Monde dans le bus participe un petit peu à cette émancipation culturelle.
Puis la découverte justement de la diversité. Là, on parlait de la diversité de la programmation. Mais quand on est jeune, c'est aussi le moment où les étoiles dans les yeux peuvent arriver dans une salle de spectacle. Et ça, c'est important de pouvoir le créer dès le plus jeune âge, en fait.
Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment hyper... c'est toujours des chouettes moments dans le bus, même pour nous, de d'être à la sortie des spectacles et de voir un petit peu les retours des enfants. C'est quelque chose qui est très qui est vraiment hyper intéressant. On a l'habitude d'avoir des adultes au 6 par 4 par exemple qui sortent et qui voient plusieurs concerts à l'année, d'avoir les retours un peu frais, innocents des enfants à la sortie d'un spectacle, c'est toujours quelque chose d'assez cool pour nous et qui donne vraiment hâte d'être à l'édition prochaine. Ouais.
Est-ce qu'il y a justement déjà des projets d'évolution ? Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer la prochaine édition peut-être ?
Alors déjà un petit peu. Là, je pense qu'on commence à avoir trouvé un petit peu notre format de festival. Après 10 ans, à avoir un peu évolué, rajouter des nouveaux partenaires. Là, je pense qu'on a trouvé un format de festival qui nous convient bien. C'est vrai qu'on était pas mal embêté dans les premières éditions, le 6x4, donc la salle, c'est vraiment un club, une salle noire, on n'a pas forcément d'espace d'accueil pour les poussettes, etc. C'est aussi pour ça un petit peu qu'on a un peu cherché à sortir de nos murs pour proposer du jeune public, parce que notre équipement n'était pas forcément hyper adapté. Là, avec l'arrivée du 40 sur le territoire, on a trouvé un espace de jeu qui nous convient bien, et puis qui est complémentaire aussi des autres salles de la Val Aglo. Donc là, je pense qu'on a trouvé un format qui nous correspond bien. Et puis le public nous le rend bien, parce que la dernière édition, on a été quasi complet sur tous les spectacles. Sur la journée du village, on a accueilli quasiment 1000 personnes, ce qui était largement au-delà de nos espérances. Donc ça encourage à garder un petit peu le format, mais en le faisant quand même un peu évoluer pour peaufiner un petit peu la formule chaque édition.
Et on peut souligner qu'il y a des bénévoles qui s'impliquent encore aussi sur cet événement. C'est important, cette énergie des bénévoles.
Complètement, ouais. C'est la force vive vraiment de notre association et de plein d'associations. Sur Monde dans le bus, ils sont principalement sur la journée du village dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Parce que c'est une journée qui demande mine de rien pas mal de coordination, où les publics déambulent un petit peu. Donc on a pas mal de bénévoles qui sont là pour guider un petit peu les gens, accueillir, expliquer un petit peu le projet de cette journée. Mais en effet, le bénévolat sur Monde dans le bus et sur le projet de l'association, c'est vraiment quelque chose d'important, mais comme à l'autre radio. Finalement.
Oui, exactement, c'est vrai, c'est une vraie richesse. Les bénévoles sont la force vive, comme tu le disais, exactement. Et donc, pour retrouver la programmation, pour faire des réservations, pour regarder dans le détail un peu ce qui se passe pendant Monde dans le bus, où est-ce que ça se passe ?
Alors, ça se passe sur le site du festival. Vous pouvez aller sur mondedanslebus.com ou sur 6x4.com. On l'a fait, répertorier l'intégralité de ce qui se passe pendant ce festival avec toutes les billetteries qui sont également disponibles ici. Alors on a quelques spectacles qui sont d'ores et déjà complets. Je pense aux Les Graines Oubliées, notamment le dernier spectacle de Lady Like Lily qui affiche complet depuis quelques jours, et Bonobo également qui joue également au 40 et qui est complet, mais il reste pas mal de place sur d'autres spectacles. Voilà, je pense à I Feel Good notamment, le spectacle de Sapritch.
Et c'est un spectacle participatif, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais il y a aussi des propositions comme ça où finalement le public est convié à participer. Et ça, c'est particulièrement intéressant et c'est une vraie expérience à vivre.
Complètement, oui. Parce que de toute façon, sur les spectacles jeunes publics, généralement, c'est des petites jauges, donc on a peu de spectateurs pour... l'objectif, ce n'est pas de faire beaucoup, beaucoup de monde et qu'il y ait vraiment un rapport artiste-public qui soit un petit peu, complexe sur les spectacles. Les formes jeunes publics, généralement, c'est des petites jauges. Et ce qui permet justement au public, même quand c'est pas forcément prévu pour, mais en tout cas d'interagir, voilà. Les artistes sont habitués justement à jouer devant un public vivant. On parle de spectacle vivant. Et donc c'est un petit peu dans les deux sens, ouais, complètement.
Pour les enfants, c'est vraiment un moment fort, je pense, une vraie expérience. Quand à un moment, ils sont aussi conviés à devenir acteurs de ce qui se passe, c'est quelque chose d'important.
Complètement. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire comprendre aux parents. Si vous avez peur que vos enfants s'ennuient, bavardent pendant le spectacle, c'est le jeu. Les artistes ont l'habitude de ça. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'emmener ses enfants à un spectacle.
Et c'est ce qui compte.
C'est du spectacle vivant.
C'est ça.
Et les artistes ont l'habitude. Et ça fait partie de l'expérience aussi, d'avoir les rires, les petits chahuts des enfants. Ça fait partie du game.
Les artistes sont aussi preneurs en fait de cette énergie-là, puisque créer pour les enfants, c'est aussi un souhait, une sensibilité particulière à ce public-là. Donc
ouais,
en fait,
complètement.
Faut pas craindre de passer le pas de la porte.
Exactement.
Pour cette programmation. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un peu tout ce qui se passe tout au long de l'année.
Oui, complètement. On relaye tout sur les différents réseaux sociaux du 6x4, où là. sont pas mal focalisés en ce moment sur Monde dans le bus, qui se passe, ouais, comme vous le disiez, une dizaine de spectacles, pas mal d'ateliers, la journée du village qui comporte également plein d'ateliers. Donc on a pas mal d'informations à faire circuler et vous pourrez tout retrouver sur nos réseaux. Ouais.
Je le rappelle que le village donc, s'installe au 40 le samedi 9 mars tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas également à retrouver cette programmation en particulier sur le site du 6 par 4 et donc toute la programmation où se trouve toute la programmation également du festival Monde dans le bus. Merci Simon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de
beaucoup.
Nous avoir proposé, présenté ce festival qui s'étend donc du 4 au 10 mars. Et je parlais en début d'émission donc de nos voisins. Eh bien, on va écouter un de nos voisins, mais alors là, c'est un voisin de la France, la Belgique. Et on écoute donc Satchel Hearts avec son titre Elina. L'actu en bref commence à Poincé avec la troupe des Baladins de la Verzée qui jouera ses trois dernières représentations de son spectacle Alice au Petit Théâtre à Poincé le 1er, le 2 et le 3 mars. Les Baladins sont 6 et vous proposent de revenir sur l'histoire de Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Dodgson, à Guildford. Alors qu'il est malade, sa petite sœur Henrietta va lui rappeler l'écriture de son livre Alice au Pays des Merveilles. Souvenez-vous, Alice va suivre un lapin blanc et tomber tomber dans un terrier. On continue maintenant à Château-Gontier, au refuge de l'Arche. Souvenez-vous, en 2023, le refuge installait un rucher école avec l'association Abeille Mayonnaise qui permet aux adhérents de l'association de se former à la pratique de l'apiculture en testant une pratique alternative au traitement conventionnel. Aujourd'hui, au refuge de l'Arche, vous pourrez donc vous installer sur une passerelle qui a été mise en place par l'équipe technique pour vous permettre d'observer cette ruche. Et un dernier coup d'œil pour les vacances scolaires, vous ne le savez peut-être pas, mais pendant cette première semaine, les bains-douches de Laval, labellisés patrimoine du XXe siècle depuis 2011, ouvrent gratuitement tous les après-midi pour des visites. L'agité ne fait pas la pluie et le beau temps, mais on vous en parle. Ce matin, on a eu droit au soleil entre 5 degrés dans le nord du département et 7 degrés du côté de Château-Gontier et Cran. Cet après-midi, le ciel se voile un peu, mais pas de pluie et des températures qui montent un peu, entre 9 degrés et 12 degrés. Oui Michel, il n'y a plus de saison, dans le temps c'était autrement et oui on ne sait plus comment s'habiller. Bon, on reste sur des températures quand même douces pour février Michel, vivement les jours d'été mais le ciel pour l'instant ne trahit pas tellement ce mois de février. D'ailleurs demain, pour ne surprendre personne, on reste sur un ciel très nuageux le matin, entre 5 et 7 degrés. Et pour ceux qui aiment la stabilité, vous ne serez pas déçus hein, puisque l'après-midi, nuages et brumes et pas plus de 11 degrés. Michel, on garde cette énergie, je te considère un peu comme un des porte-parole de cette météo parce que oui, la pluie et le mauvais temps, c'est moche, mais ça nous permet tous de lancer une conversation quand on est un petit peu en panne de sujet. Le sourire, la vie et des mots qui se posent ici, juste là, sur les pages d'un carnet. C'est ce qui me vient pour vous parler de ma rencontre avec Corinne Bonnet, autrice de l'ouvrage « Corps à ciel ouvert » et Bernadette Perrault, présidente de la Ligue contre le cancer de la Mayenne. Corinne traitait quotidiennement des dossiers dans sa vie professionnelle jusqu'au jour où le dossier à traiter, c'était elle. Ce moment-là où on lui annonce qu'elle a un cancer de l'ovaire, aujourd'hui en rémission, elle nous parle de ces mots qui jaillissent, ces mots qu'elle a inscrits sur le papier pendant ce long parcours et qui aujourd'hui sont le cœur d'un livre. Elle nous en parle. Écoutez.
Corinne Bonnet, je vis en Mayenne depuis plus de 35 ans. C'est vrai que j'ai beaucoup œuvré dans ce département pour l'accès aux arts vivants. Et donc, quand à 53 ans, ce cancer m'est tombé dessus, c'est vrai que c'est un coup d'arrêt. Et je crois que le livre dont on va parler a été un cadeau qui est venu vers moi, même si avant j'écrivais déjà, mais sans finir les textes que je commençais.
Corinne se lance dans l'écriture de ce qui deviendra l'ouvrage « Corps à ciel ouvert » paru aux éditions Les Impliqués. Elle y raconte sous forme de récits et poèmes le traitement de la maladie mais aussi tout ce qui se passe à l'intérieur qui comporte beaucoup de paradoxes comme elle le dit. Bernadette Perrault est présidente de la Ligue contre le cancer de la Mayenne. Elle nous dit quelques mots sur le cancer de l'ovaire, un cancer silencieux.
On a entre 4000 et 5000 cancers de l'ovaire par an en France mais avec un taux de mortalité de 50%. D'où la gravité de ce cancer, et le fait d'y penser et de le rechercher. On ne le trouve que si on le cherche. C'est un cancer particulièrement vicieux parce qu'il est silencieux. Et quand on s'en rend compte, c'est que le ventre est tout envahi, un petit peu comme son cousin, le cancer du pancréas. Donc ce qu'il faut, c'est y penser. Et je pense que au moindre soupçon, il ne faut pas hésiter à aller consulter, qu'on fasse un toucher vaginal, une échographie. Et ça permet de dépister parfois des tumeurs qui vont devenir, parce qu'on a des tumeurs borderline aussi, des kystes de l'ovaire, dont on sait qu'ils ont un potentiel. Et à ce moment-là, on peut les découvrir à temps.
Corinne, vous parlez d'un moment de bascule, et la première fois pour vous d'un ralentissement du temps.
Alors, en fait, il y a du mystère autour de tout ça, parce que quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il y a évidemment le choc, il y a des larmes, beaucoup de larmes. Il y a comment je vais faire avec les proches, comment je vais annoncer à mes parents, aux proches. Et moi, la chance que j'ai un peu eue, c'est que j'ai pas trop
été prise par pourquoi ça me tombe dessus. Assez vite, ça a été mais comment je vais traverser, comment je vais faire. Et une amie m'a envoyé un livre de poésie assez vite après l'annonce et j'ai été touchée. Et je crois que c'est ça que qui a été mon guide et dans le livre et dans l'envie de dire mes poèmes avec cette lecture musicale qui aura lieu en mars. C'est que l'émotion qui peut-être était avait pas forcément une place dans ma vie, où j'étais pas quelqu'un qui accueillait la lenteur ou l'émotion ou l'empathie quand il y avait besoin d'écouter les autres. Là, d'être acculée pour moi-même d'avoir un corps déjà limité, puisque très vite j'étais opérée et j'ai resté un mois alitée à pouvoir marcher très peu, eh bien il y a eu cette bascule qui est devenue, par les mots, je me suis appropriée ce temps lent.
Vous m'avez parlé également de rupture.
La rupture, c'est une rupture du temps, parce qu'il n'y a plus de rendez-vous tous les jours avec une vie active, même s'il y a des rendez-vous réguliers des chimios. Il y a une rupture, notamment par rapport aux autres, parce que c'est compliqué parfois dans les relations, et une rupture dans le corps, parce qu'il n'y a plus la maîtrise du corps, auquel avant je ne pensais même pas, quand j'allais faire un footing ou que je prenais mon vélo. Et là, je suis opérée 3 fois et je ne peux plus marcher.
Vous dites aussi que créer, écrire permet d'exister à un moment où on n'existe plus beaucoup.
Effectivement, c'est une centaine de poèmes que j'ai écrits pendant ces 4 années. Ça a été assez long, ce parcours de soins, puisqu'il y a eu un échec thérapeutique au début. Et je suis aujourd'hui en rémission, c'est bien de le dire, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être un peu miraculée. Moi, j'essayais de ne pas trop réfléchir à tous ces chiffres. Et l'écriture est venue de façon jaillissante. Je crois que j'ai senti qu'il y avait une partie de moi qui voulait aller vers du oui. Comment, si je dis oui, malgré je peux tomber, malgré c'est dangereux, malgré je suis complètement chaos parce que je crache toutes les minutes pendant une semaine après une chimio, parce que c'est 4 heures de chimio et de taxol et de carboplatine, comment malgré ça, je voulais que y a une petite porte, même toute petite, pour que la rivière des mots en moi puisse couler.
Il y a une alternance entre des textes en prose et des poèmes, ils se répondent mutuellement. Le texte en prose raconte où vous en êtes du parcours thérapeutique. Bernadette, vous, ça vous a touché de déceler dans des étapes du parcours particulièrement difficiles de l'humour dans certains poèmes de Corinne?
Oui, parce qu'il y a vraiment des poèmes qui sont particulièrement drôles, il n'y a pas d'autre terme. Et ça donne un peu d'espoir et on se rend compte par rapport au texte, parce que la tonalité des poèmes dépendent aussi du texte. Et ça, c'est très important de qui est. Parce que souvent, il y a soit un recueil de poèmes, soit le récit de sa lutte. Ce n'est pas une lutte, c'est plutôt une renaissance, pour moi. Et donc, ce texte nous permet d'avoir la tonalité différente de chacun des poèmes. Et c'est vraiment très important. Moi, j'ai gardé ce livre sur ma table de nuit. Et de temps en temps, je lis un poème, mais je regarde le texte avant pour savoir à quel moment on était de la maladie.
Alors Corinne, il y a l'ouvrage « Corps à ciel ouvert », mais il y a aussi une lecture musicale avec Raymonde Fourier qui vous accompagne sur ce projet. Une première représentation est d'ailleurs prévue le 14 mars au Théâtre du Tiroir.
Effectivement, à l'origine, je disais pas mal mes textes quand j'étais à faire une piqûre avec un soignant, parce que du coup les soignants c'était aussi la vie régulière, c'était des nouveaux repères. J'aimais bien aller à Angers finalement pour mes séances d'immunothérapie. Je me sentais prise en charge. On dit souvent que quand les soins s'arrêtent, on est perdu. J'ai vécu aussi ce moment où, ah, et donc si je ne suis plus protégée par un traitement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc je disais ces textes, je les partageais et puis je voulais remercier les soignants. Donc avec Raymonde Fourier qui m'a aidée aussi sur l'écriture de ce recueil, puisqu'elle était enseignante en français et puis on se connaît très bien, elle sait que j'écris depuis longtemps, mais là, à l'occasion de 100 textes, il fallait vraiment faire un travail. Eh bien, on a eu l'idée, puisqu'elle est chanteuse et guitariste amateur, mais depuis plus de 40 ans, de monter quelque chose pour partager cela, non pas comme une lecture simple où je prends le livre et où je lis, mais quelque chose qui soit habité. Quand moi-même je relis mes textes, comme disait Madame Perrault, eh bien ça me relie à quelque chose que peut-être je peux oublier. Une espèce de qualité de l'instant. Pas oublier de regarder le rouge-gorge qui vient manger quelques miettes. Pas oublier que quand quelqu'un de proche me dit « ça va pas très bien », eh bien au lieu de passer à autre chose, il se passe quelque chose là. Voilà, c'est une espèce d'hypersensibilité que j'avais quand j'étais malade, qui se traduit dans certains textes où je voulais aussi parler de l'émotion, parler de ce précieux aussi d'être vivant. C'est-à-dire que dans le vulnérable, il n'y a rien que ce pas, un seul pas. Le souffle, rien que ce souffle, souffle sans asile, rien que ce corps. Mais il y a aussi tous ces moments magiques, où on se sent, moi j'étais très en communion avec la nature qui est une ressource, et donc j'avais envie de transmettre ça par les mots, donc il y a de l'improvisation dans cette lecture musicale, et de la musique avec des berceuses, avec des chansons de mon poète source qui s'appelle René Guicadou, et puis également des berceuses bretonnes, enfin on ne va pas tout révéler, mais l'idée c'était de rendre vivant avec la douceur de la musique pour permettre aux gens d'intérioriser les textes et de prendre le temps que ça fasse écho en eux. C'est surtout l'envie qu'il y ait un lieu où on puisse, avec douceur, tendresse, bienveillance, tranquillité, partager qu'on peut, ça va peut-être m'émouvoir de dire ça, partager que le vulnérable est une richesse, partager qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et j'entends encore des quelques personnes, parce que je fraye un peu maintenant dans des milieux où il y a des malades, mais des personnes qui me disent... Voilà, la personne m'a dit « j'ai une récidive ». Quelqu'un m'a dit ça récemment. Et j'étais avec cette personne et je suis sortie de la chambre d'hôpital. C'est terrible. Moi qui étais malade, si j'avais dû dire à une personne importante pour moi « je dois t'avouer là, il y a une récidive », si la personne sort, il y a rupture à nouveau. Donc c'est ça l'envie de cette lecture musicale, c'est que voilà, plus on... C'est comme dit Madame Perrault, on parle du cancer du côlon. C'est pas compliqué de faire une analyse des selles. Plus on en parle, et je dis merci au Théâtre du Tiroir, parce qu'il ose des choses, il accueille des choses pas faciles. Il m'a dit « Corinne, pour toi, la maladie, c'est dans la vie, alors tu viens dans mon théâtre ». C'est pour ça que cette lecture m'importe, c'est que je pense que le vulnérable est riche. Il faut oser, parce que quand on traverse ça, on traverse rien que de l'humanité.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Eh bien, chaque semaine, Donatien nous raconte des histoires. Il paraît qu'aujourd'hui, il s'agit d'histoires à dormir debout.
Encore une histoire à dormir debout. Voilà ce que pense Donatien à la sortie du cinéma. Sur Internet, il publiera sa critique en qualifiant le scénario d'indigent ou d'invraisemblable, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Invraisemblable ne signifie pas forcément inintéressant si on en croit les yeux ébahis des enfants, même les plus grands, à qui on raconte des histoires à dormir debout. Racontée par Alphonse Daudet, l'histoire de cette chèvre aussi revendicatrice qu'un secrétaire de confédération syndicale réclamant auprès de ce brave monsieur Seguin une augmentation de sa part de liberté. Chez Perrault, l'histoire d'un âne qui produit des écus d'or en guise de crottin. Cette autre histoire d'un loup qui se déguise en grand-mère ou d'une paire de bottes de 7 lieues, franchissant les rivières et les montagnes, est la meilleure, pour la fin, l'histoire d'un prince qui, d'un simple baiser, vous réveille une jeune fille qui comatait depuis un siècle. Des histoires, disions-nous, à dormir debout, qui pourtant depuis des siècles tiennent éveillés les petits et les grands. On que ne vit pourtant Donatien s'endormir, personne debout, tandis qu'il contait les aventures du chat botté, du petit pousset ou de Blanche-Neige. Bien au contraire, le livre refermé, l'enfant bercé par le monde imaginaire des contes s'endort, le pouce entre les dents, les yeux mi-clos, encore émerveillé par un royaume aussi lointain que fantastique, une montagne infranchissable, une forêt enchanteresse. Ah, si Donatien pouvait ainsi s'endormir avec les mêmes rêves. Mais il se tourne et se retourne maudissant, la lune trop pleine, le volet qui claque, la moto qui pétarade et l'ivrogne Goliard qui brûle de ses arpions le pavé de paroir, comme chantait Pierre Macorlan. Il faut quitter Paris pour trouver celles et ceux qui dorment en position debout. S'envoler vers le sud pour voir dormir debout les chevaux de Camargue et les flamants roses. Traverser la mer et voir en Afrique dormir debout sur leurs quatre pattes les girafes et les éléphants. Dans notre capitale et dans nos villes dorment debout les pigeons, toujours en éveil, prêts à échapper à leurs prédateurs, mais aussi le canari de la concierge en sécurité pourtant dans sa cage. Et prenez garde dans votre confortable appartement. Si vous oubliez de les ouvrir pour en chasser la poussière, abandonnez dans la bibliothèque, refermez trop vite et trop tôt, riche de vos rêves oubliés sur les étagères aussi. Les livres pourraient bien s'endormir debout.
Un jour, mon prince viendra. Un on s'aimera dans son château, heureux comme avant. Goûter le bonheur qui nous attend. Quand le printemps un jour
L'agité du local arrive à sa fin. Merci à Simon et Hermine du 6x4 d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à Donatien. Ça continue sur les ondes de l'autre radio et votre soirée commence à 19h avec O Catering. Ils se sont installés au bar Le Rendez-vous à Mayenne pour la saison culturelle Pampa de l'association Tribu. Et ils ont encore passé un bon moment tous ensemble et en public. Et donc ça commence à 19h. Ensuite à 21h, c'est du rap français sur l'autre radio avec Frères de Chaussures proposé par Fatshu. Nous on se retrouve demain, même heure, même rendez-vous, même plaisir de passer ce moment ensemble. Et je serai accompagnée de Corentin Chauveau de l'association d'honneur qui nous parlera du prochain trail urbain organisé le 1er avril qui permet de récolter donc des fonds pour réaliser des rêves d'enfants malades. Restez bien à l'écoute de l'autre radio, restez bien dans vos pompes, droit dans vos guiboles et surtout faites le bien.
Oh, c'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Et quand même, d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.